Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. D'abord, les titres. Le désarmement volontaire des rebelles rwandais des FDLR était à l'ordre du jour la semaine dernière à Luanda, en Angola, où se sont réunies les autorités de la CIRGF, de la SADC et des Nations Unies. Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, a pris part à cette réunion. C'est l'actualité du jour. Le service des Nations Unies de lutte anti-mine UNMAS ferme son bureau à Kisangani. La responsabilité de déminage revient désormais aux partenaires nationaux dans le centre congolais de lutte anti-mine. Les conséquences et implications de cette mesure dans cette édition. Le fonds fiduciaire africain de solidarité à la rescousse de 24 pays africains a la clé 4 projets à financer à hauteur de 16 millions de dollars américains. La RDC, elle, ne figure pas sur la liste des pays bénéficiaires. Pourquoi ce fonds géré par la FAO a-t-il ignoré la RDC? Réponse tout à l'heure avec le représentant de la FAO en RDC. Enfin, écoutez ceci.
Et puis, je vais essayer de terminer sans trop bafouiller en vous disant Botikala Malamou.
Cette voix, vous ne la connaissez peut-être pas. Eh bien, vous saurez à qui elle appartient. C'est dans le portrait de ce dimanche.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une réunion conjointe CIRGL, SADC, Nations Unies s'est tenue cette semaine à Luanda, en Angola, pour parler des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies y a pris part, intervenant à partir de la capitale angolaise au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Martin Kobler a expliqué l'importance de cette rencontre. Suivez ses explications dans ce résumé d'Honoré Missenga Kalala rendu par Babel Massimango.
D'entrée de jeu, Martin Kobler a fixé l'enjeu de la rencontre de Luanda. Celle-ci devait permettre aux pays de la CIRGL et de la SADC d'avoir une position commune sur le processus de désarmement volontaire des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR, ce qui est une bonne chose parce qu'a rappelé le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, la politique de la MONUSCO privilégie le règlement pacifique. Et Martin Kobler espérait donc obtenir de cette réunion un chronogramme et un plan d'action de ce processus. La MONUSCO a le mandat du désarmement et de la démobilisation de tous les groupes armées. Pour le moment, on se concentre sur le désarmement volontaire des FDLR, a-t-il déclaré. Par ailleurs, dans la capitale angolaise, Kobler a eu l'occasion de rappeler les positions de la MONUSCO. Primo, que le désarmement volontaire des FDLR ne peut être lié ni aux problèmes politiques, ni à la situation des réfugiés rwandais en RDC. Secondo, qu'il était impérieux, en même temps que le processus se réalise, que l'autorité de l'État soit rétablie dans les territoires et villages libérés des FDLR. C'est important pour les populations victimes des exactions commises par ces FDLR, expliqué Martin Kobler. Le chef de la MONUSCO a aussi rappelé que ce processus géré par le gouvernement a commencé, il doit continuer, que l'option militaire reste sur la table si jamais ce processus était interrompu. Il a enfin insisté qu'il n'y avait pas d'impunité. Tous ceux qui se seraient rendus coupables des graves violations de droits de l'homme doivent répondre de leurs actes devant la justice.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
En marge du 23e sommet des chefs d'État de l'Union africaine tenu récemment à Malabo, en Guinée équatoriale, le Fonds fiduciaire africain de solidarité, géré par la FAO, a lancé 4 projets à hauteur de 16 millions de dollars américains. Ces projets concernent 24 pays africains, mais pas la RDC. Qu'est-ce que ce fonds? Comment fonctionne-t-il? Pourquoi la RDC n'en a-t-elle pas bénéficié? Réponse avec Ndaga Gueye, représentant de la FAO en RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur Diaga Gueye, bonjour.
Bonjour.
Il vient de se tenir le 23e sommet des chefs d'État africains. Et en marge de ce sommet, le Fonds fiduciaire africain de solidarité a lancé 4 projets au niveau de 24 pays du continent. La République démocratique du Congo n'est pas concernée. Est-ce que nous pouvons savoir pourquoi?
La RDC n'a pas été sélectionnée parmi les pays bénéficiaires de ce second lot de projets. Ce n'est pas parce que la RDC n'est pas importante, loin de là, mais c'est qu'il faut simplement, à chaque vague, sélectionner un certain nombre de pays. Moi, j'ai la conviction profonde que dans les prochaines allocations, la RDC y sera. Il faut aussi préciser une chose, c'est que ce fonds de solidarité va couvrir toute l'Afrique, mais on ne peut pas faire tout en une seule fois. Il faut savoir de temps en temps faire des choix, des priorités. La RDC n'a pas été dans le premier lot, ni dans ce second lot, mais la RDC forcément sera dans les lots à venir. Heureusement d'ailleurs que la RDC, en dehors même de ce fonds de solidarité, bénéficie quand même de beaucoup d'autres initiatives, de beaucoup d'autres financements. Alors peut-être que pour cette fois-ci, on a voulu privilégier les pays qui étaient, disons, plus ou moins les moins nantis. Disons que ce fonds, il a été créé par les Africains eux-mêmes. C'est eux qui ont décidé de le mettre en place. C'est l'Afrique qui aide l'Afrique. C'est comme ça que je pourrais, moi, l'appeler. Alors, le fonds est déjà alimenté suffisamment. Maintenant, il y a plusieurs étapes. Pour le premier lot, il y avait 4 pays ou 5 pays. C'était surtout ceux qui étaient affectés par la crise dans le Sahel. Maintenant, dans le deuxième lot, on a plutôt privilégié l'approche sous-régionale, c'est-à-dire que ce n'est plus des projets individuels, c'est des projets qui regroupent un groupe de pays. Et puis peut-être que la troisième vague, il y aura encore des allocations pays par pays, et la RDC, qui n'est pas, avouons-le quand même, le pays le moins supporté dans le domaine de l'agriculture, pourra venir.
Parlons un peu de la nature de ces fonds et de son fonctionnement et qui en bénéficie généralement. Mais comment fonctionnent ces fonds?
Je vais encore insister sur une notion qui me paraît fondamentale. Ce fonds, c'est l'Afrique qui aide l'Afrique. Ça veut dire quoi? Que nous, Africains, nous n'attendons pas toujours tout de l'extérieur. C'est des pays africains qui ont décidé, parce qu'ils sont des pays émergents, de dire que nous allons créer un fonds de solidarité entre Africains. 3 pays ont déjà plus ou moins contribué. La Guinée équatoriale à hauteur de 30 millions de dollars. La République d'Angola pour 10 millions de dollars. À côté, juste en face, la République du Congo, à travers quelques organisations non gouvernementales, ont fait aussi une contribution symbolique. Et d'autres pays sont en train aussi d'apporter leur contribution. Mais ce qui est le plus important en tant que représentant de la FAO que je voudrais vous dire, c'est qu'ils ont dit que puisqu'il s'agit d'un fonds de solidarité pour la sécurité alimentaire, pour la promotion et le développement de l'agriculture, qui est le pilier fondamental dans tous nos pays, ils ont dit, bon, FAO, en tant qu'agence lead du système des Nations Unies, nous allons nous appuyer sur vous pour non seulement gérer ce fonds, mais veiller à ce que l'exécution des projets sur le terrain ait un impact visible. Parce que maintenant, nous, en la FAO, nous ne parlons plus de résultats, nous parlons d'impact. Maintenant, comment fonctionne le fonds? Il y a un conseil d'administration, si je puis dire ainsi, où tous les pays qui sont déjà impliqués ou qui ont déjà contribué apportent leur connaissance, pas seulement leur argent, mais aussi leur connaissance, leur compétence, ça c'est un. Mais ils disent toujours à la FAO, vous en tant qu'agence du système des Nations Unies, qui avez vraiment une connaissance et une expertise dans tous les domaines, tout ce qui touche sur la sécurité alimentaire, il est peut-être mieux qu'on domicilie le fonds au niveau de l'agence et que maintenant, mais nous n'allons pas vous donner l'argent et vous laisser faire ce que vous voulez. C'est pourquoi il y a même ce conseil d'administration où il y a tous les pays qui contribuent. Il y a aussi l'Union africaine, il y a aussi le président du groupe des banques africaines. Il y a aussi que dans ce fonds-là, rien, absolument rien ne se fera sur la base simplement de la décision de la FAO. Nous apportons l'expertise technique.
Oui, je reviens à une question qui a été posée et à laquelle vous avez répondu. Est-ce que ce n'est pas parce que la RDC n'a pas contribué comme la Guinée équatoriale, comme le Congo-Brazzaville ou même comme l'Angola à ces fonds qui n'a pas encore bénéficié jusque-là de ces fonds?
Absolument pas, parce que de tous les pays qui ont bénéficié de ce fonds, il n'y en a pas un seul qui a contribué. Je vous ai dit, c'est parce que il a été décidé par les Africains. Et c'est ça qu'il faut vraiment saluer, que c'est l'Afrique qui aide l'Afrique. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas contribué que vous n'allez pas bénéficier de ces ressources financières. Sinon, si c'était ça le cas, il aurait simplement fallu, alors que au lieu de contribuer, j'utilise mes propres fonds pour faire mon propre programme. Il y a des pays africains qui ont des revenus intermédiaires beaucoup plus élevés que d'autres. Et c'est ce pays-là qui se sont dit, nous ne pouvons pas attendre tout, absolument tout de l'extérieur. Nous autres Africains, nous devons aussi nous sentir solidaires. C'est pourquoi le fonds est appelé le fonds de solidarité entre pays africains.
Quelle est la nature des projets que ce fonds finance? Et on parle de 4 projets dans 24 pays.
Exactement, on parle effectivement de 4 projets dans 24 pays. Vous imaginez donc que 4 versus 24, c'est forcément des pays, projets plus ou moins régionaux ou sous-régionaux. Ces projets vont d'abord contribuer à améliorer la sécurité alimentaire, urbaine et périurbaine. On va aussi peut-être essayer de voir comment nous pouvons promouvoir la diversité des productions agricoles. Mais il y a aussi la question de la sécurité sanitaire des aliments. Parce qu'une chose est de produire, une autre aussi de s'assurer que ce qui va arriver dans l'assiette du consommateur ou de la consommatrice est sain.
Vous, monsieur le représentant, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Contribuer à la relance de l'arboriculture fruitière en RDC, c'est le but de la formation pratique sur les techniques du greffage du manguier et de l'avocatier organisée du 3 au 4 juillet 2014 par la FAO à Kinshasa. Au total, 28 personnes de divers horizons publics et privés ont participé à cette formation. Une formation à inscrire dans le cadre du projet de la FAO intitulé « Appui à la définition d'une stratégie et à la mise en œuvre d'un programme pilote de développement de l'arboriculture en RD Congo ». Le lycée Nyakasanza de Bounia, bientôt doté de 2 nouvelles salles de classe. La construction de ces ouvrages se fera en 3 mois avec le financement du projet à impact rapide de la MONUSCO. Monsieur Dominique Bassinga, conseiller en genre de la MONUSCO, a posé la première pierre de ses travaux la semaine dernière. Par ailleurs, le bureau genre de la MONUSCO, en partenariat avec l'ONU Femmes et le PNUD, a organisé du 25 au 27 juin dernier à Goma, au Nord Kivu, un forum sur la parité en rapport avec les mandats électoraux. Aviation sans frontières se dote d'un nouvel appareil pour sa flotte en RDC. Ce 3e vol caravane de 9 places est arrivé ce mercredi. ASF est une compagnie humanitaire française qui travaille avec les agences onusiennes et les ONG nationales et internationales. Elle exploite plus l'intérieur du pays, surtout dans certains endroits où l'accès est difficile pour les acteurs humanitaires. Selon le président de l'ASF, la grande partie de financement vient des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Pour la suite de cette émission, nous sommes dans ce studio avec Jean-Pierre Elali Coco. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Bettina.
Alors, le service anti-mine des Nations Unies, UNMAS, a fermé le 14 juin dernier son bureau de Kisangani, confiant ainsi les responsabilités des activités de lutte contre les mines aux organisations nationales. Alors, quelles sont les conséquences et les implications de cette décision?
Voilà, toutes ces questions et bien d'autres encore, Bettina, nous les avons posées à Pascal Simon. Simon est le directeur de programme des UNMAS et RDC. Je vous invite sans tarder donc à suivre l'entretien que nous avons eu avec ses responsables. Pascal Simon, bonjour.
Bonjour.
Le service de lutte anti-mine des Nations Unies et UNMAS vient de fermer depuis le 14 juin dernier son bureau de Kisangani, donc de la zone nord. Pourquoi cette décision alors que la province orientale et le Maniema ne sont pas exemptes des mines antipersonnelles?
Mais en réalité, il s'agit des conséquences de la reconfiguration de la MONUSCO telle que demandée par la résolution du Conseil de sécurité 2098. Souvenez-vous, hein, la MONUSCO doit doit se concentrer à l'Est. Et en plus, il y a certaines tâches et responsabilités qui étaient conduites par la MONUSCO qui sont maintenant transférées à l'équipe pays. Et donc, en conséquence, on peut dire aujourd'hui que ce transfert de tâches est terminé. La réorganisation des activités d'UNMAS est effectivement terminée également, avec une section de la MONUSCO qui est d'Agoma, et puis une section d'UNMAS qui est attachée à l'équipe pays ici à Kinshasa. Et évidemment, en conséquence, les financements de la MONUSCO ont été réduits et nous devons travailler à compenser cette diminution de ressources par des nouveaux financements qui vont venir des partenaires au développement, mais ça prend du temps, bien entendu.
Oui, Pascal Simon, nous allons y arriver, mais est-ce que vous pouvez nous donner la topographie actuelle des mines antipersonnelles et des autres engins explosifs en RDC actuellement?
Oui, en fait, souvenez-vous, hein, comme vous le disiez, nous avons conclu il y a peu de temps l'enquête nationale sur la contamination par mine qui a déterminé que nous avions environ 130 zones contaminées par mine en RDC, représentant, disons, 2 millions de mètres carrés, ce qui correspond à environ 300 terrains de football. Donc la contamination par mine est relativement limitée en termes de surface, mais il y a évidemment une contamination par engin explosif de guerre qui est très très importante et qui se trouve partout où des combats ou des opérations militaires ont été menées depuis les années 70-80 jusqu'aux guerres du Congo dans les années 90 et puis récemment dans les Kivu et dans l'est du pays.
Donc c'est beaucoup plus à l'est.
En ce qui concerne les engins non explosés, oui, c'est plus à l'est. Les mines antipersonnelles, c'est réparti de manière assez équitable sur tout le pays, mais enfin on a quand même vu qu'il y avait une concentration sur l'Équateur, sur le Katanga, sur le Kasaï occidental et la province orientale. Ces quatre provinces concentrent à elles seules quasiment 90% de la contamination.
Voilà, on est à l'époque de la reconfiguration de la MONUSCO, vous l'avez évoqué. C'est le bureau de Goma qui mettra son expertise pour les activités des déminages à l'Est. Cela suppose que vous allez aussi augmenter des ressources tant techniques que financières, monsieur Pascal.
Eh bien non, malheureusement pas dans l'immédiat, puisque comme je le disais, les budgets en provenance de la MONUSCO ont été diminués pour évidemment accompagner le transfert de tâches et de responsabilités à l'équipe pays. Mais évidemment, cela prend du temps pour compenser cette diminution et cela prend du temps pour nous pour mobiliser des ressources auprès d'autres donateurs. Oui, le bureau de Goma sera responsable pour cette zone, mais en réalité, nos capacités d'intervention, nos capacités techniques sont plutôt en diminution.
Vous avez dit tout à l'heure que la responsabilité de toutes les activités relatives est transférée à la partie nationale, donc plus précisément au Centre congolais des luttes anti-mines. Est-ce que les organisations nationales de lutte anti-mine comme Afriland, Afrique pour la lutte anti-mine, sont-elles suffisamment outillées techniquement et financièrement pour mener ces activités de déminage et de pollution?
Oui, alors, en fait, bon, effectivement, c'est l'État qui doit assumer la responsabilité de...
L'État congolais.
L'État congolais qui doit assumer la responsabilité de la coordination, de la gestion du programme national. Évidemment, nous sommes là pour l'appuyer, mais nous essayons également de susciter l'émergence d'organisations nationales comme l'organisation que vous avez mentionnée, Afrilam. Ils ont une certaine capacité et compétences techniques qui existent, et ils ont des moyens financiers qui sont modestes, mais c'est notre travail, notre responsabilité que de les appuyer dans cette tâche.
Votre tâche va se limiter à l'appui des organisations nationales, mais est-ce que là, votre rôle a diminué, vous allez fermer vos valises?
Non, alors non, j'espère que non, bien entendu. Notre présence est très importante auprès de la partie nationale, en particulier du Centre congolais de lutte anti-mine. L'objectif est de développer ses capacités à gérer ce programme. Nous souhaitons également aider le pays à éliminer la contamination par mine antipersonnel dans les prochaines années, parce que ça c'est vraiment une priorité pour l'État. Et puis nous cherchons également à développer des filières de formation en neutralisation ou destruction des explosifs, notamment en appuyant des organisations telles que Afrilam.
Est-ce que vous les faites déjà ou bien c'est un projet?
Alors, nous commençons. C'est vrai que l'appui au CLAM a déjà commencé il y a quelques années. Par contre, le développement de capacités et de compétences auprès d'organisations nationales, c'est quelque chose qui est assez récent. Et nous sommes en train de préparer également des stratégies pour appuyer les FARDC et la police nationale.
L'opinion soutient quand même le travail que vous faites. C'est un travail colossal. Maintenant, vous allez vous retirer un tout petit peu en vous limitant à l'appui. Et quels sont les défis qui attendent maintenant une masse, ses partenaires nationaux sur le terrain, notamment dans l'Est du pays? pays?
Eh bien, je pense que le premier défi, d'abord, c'est de convaincre les partenaires au développement qu'il est important de soutenir le programme de lutte anti-mine dans ce pays. Il y a un grand nombre de victimes, comme vous le savez. Il faut continuer les activités d'éducation au risque, les activités d'appui aux victimes, bien entendu. Il faut mettre en œuvre des activités de dépollution et de déminage. Et il faut aider l'État congolais à faire face à la menace que constituent les engins non explosés, qui va évidemment exister pendant encore quelques dizaines d'années. Là, je sais qu'il y a beaucoup de challenges et de défis dans ce pays, mais nous sommes convaincus qu'il est très important de poursuivre cet effort.
Pascal Simon, vous fermez votre bureau de Kisangani. Est-ce que cela a un impact sur le personnel de UNMAS?
Oui, bien sûr. Hein, nous avons dû réduire notre personnel, parce qu'en plus du bureau de Kisangani...
Il y avait combien de gens à Kisangani?
Nous avions une équipe d'environ 7-8 personnes hein, à Kisangani. Mais en plus de cela, nous avons également fermé nos bureaux de Mbandaka et de Kananga. Hein. Donc nous avons réduit notre équipe de manière assez substantielle. Kindu dépendait de Kisangani.
Alors, Monsieur Simon, vous avez un dernier mot avant de terminer?
Oui, je voudrais quand même mentionner avec une note d'espoir que nous venons de conclure la conférence de Maputo, qui était en fait la troisième conférence de révision de la Convention d'Ottawa sur la mine antipersonnelle. Et la RDC a introduit une demande d'extension pour la période lui permettant d'éliminer les mines antipersonnelles. Cette demande d'extension a été acceptée. Donc la RDC a officiellement maintenant jusqu'à fin de l'année 2020. Et évidemment, l'objectif est d'aider la RDC à revoir la stratégie nationale et à aider la partie nationale à développer un plan opérationnel jusqu'à la fin de l'année 2020.
Et quand est-ce qu'on va débloquer ce montant pour la RDC?
Alors, l'extension a déjà été accordée par les États parties, donc à Maputo, ça s'est passé la semaine passée, et la RDC doit soumettre dans les prochains mois son plan opérationnel pour expliquer comment elle va atteindre cet objectif. Et là, de nouveau, l'assistance d'UNMAS sera importante.
Nous vous remercions.
Merci à vous.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé de mardi à jeudi dernier à Bounia une formation sur l'expertise médico-légale en matière de viol. C'était à l'intention des magistrats et officiers de police judiciaire de cette ville. Solange Emendobo, officier des droits de l'homme de la MONUSCO en Ituri, explique en quoi a consisté cette formation et ainsi que son but. Elle est au micro de José Deschartes Menga.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO de Bounia a organisé du mardi au jeudi un atelier de renforcement des capacités des officiers de police judiciaire et des magistrats civils et militaires sur l'expertise médico-légale en matière de violence sexuelle. Ce qui a motivé cette activité, c'est un constat qui a été établi par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme concernant les suites réservées aux procédures engagées en matière de violence sexuelle. Il a été établi que la plupart des dossiers soumis devant les juridictions et concernant notamment les cas de viol ne connaissaient pas une suite. Cela pour plusieurs raisons et l'une des raisons justement était que les pièces versées à ces dossiers concernant l'expertise médico-légale pour prouver l'acte de viol qui était dénoncé n'étaient pas soit bien montées, soit les réquisitions n'étaient pas bien faites. C'est au regard de ce constat que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a fait appel à l'expertise du professeur Chomba, qui a une bonne maîtrise du domaine, pour former les officiers de police judiciaire et les magistrats civils et militaires en matière d'une bonne rédaction des réquisitions en vue de donner un effet au dossier de violence sexuelle porté à la compétence des juridictions.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Okapi. Je suis ravie d'être quelques instants avec vous. Je m'appelle Geneviève Delaunoy. Je suis de nationalité belge. Je suis journaliste de formation. J'ai étudié le journalisme en Belgique et ensuite j'ai fait un master en politique internationale. Et je suis chef de l'unité de communication, partenariat et mobilisation des ressources au sein de l'agence PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Donc ça fait à peu près un an, le 6 août, il y aura un an que je suis arrivée au Congo. Alors mes tâches sont les suivantes. Mon équipe de communication créer des événements de communication institutionnelle et événementielle pour expliquer aux gens les actions et les projets menés par le PNUD sur le terrain en République démocratique du Congo. Par exemple, nous organisons des conférences de presse, des voyages de presse, des visites sur le terrain. Nous organisons aussi des journées spéciales à l'occasion, par exemple, de la journée de l'arbre. Et là, nous nous adressons particulièrement aux écoles pour leur faire comprendre l'utilité de l'arbre dans la chaîne de la vie et aussi pour leur faire comprendre que chaque être vivant sur Terre est important. Il y a un pilier économique aussi où on travaille avec les communautés de base pour tout ce qui concerne les moyens d'existence durable, les activités génératrices de revenus, etc. Pour les auditeurs et auditrices qui souhaitent en savoir plus sur le programme des Nations Unies pour le développement, nous avons un site web. L'adresse, c'est cd.undp.org et vous êtes les bienvenus pour visiter le site et vos commentaires sont les bienvenus également. Avant de travailler au PNUD ici en RDC, j'ai travaillé comme responsable régional de la communication en Afrique de l'Ouest dans le cadre des réfugiés maliens qui avaient fui au Burkina, en Mauritanie, au Sénégal notamment. Et ma tâche était de faire le plaidoyer de ces réfugiés auprès de New York, de Genève, de Bruxelles pour expliquer les difficultés qu'il y avait à héberger dans des pays déjà très très pauvres des milliers et des milliers de réfugiés maliens qui sont venus avec leur bétail. Donc vous imaginez ce que ça provoque comme changement et comme problème sur place avec les communautés hôtes. Avant ça, j'ai travaillé aussi en Ukraine pendant 3 ans sur un programme de droits de l'homme, droits des femmes et droits de l'enfant spécialisé sur la lutte contre la violence domestique, la violence conjugale, tout ce qui est violence psychologique aussi et changement de comportement. Avant l'Ukraine, j'étais au Bénin pendant 4 ans. Et puis, pour le PNUD aussi, le programme des Nations Unies pour le développement, toujours dans la communication. Et avant ça, eh bien, j'ai fait une carrière de journaliste pendant à peu près 18 ans. Donc, si vous additionnez toutes ces années, vous saurez à peu près l'âge que j'ai, mais je ne vous le dirai pas. Alors, comme temps libre, ce que j'aime, c'est la natation. Je nage beaucoup, beaucoup. Je lis, je fais beaucoup de photos aussi. Comme musique, j'aime la musique congolaise, mais je ne m'y connais pas encore tellement bien. Sinon, je n'ai pas de préférence. Mais il y a une chose que j'aime pas du tout, c'est la techno. Alors, je suis désolée pour les auditeurs qui aiment la techno, mais moi, j'aime pas. Les projets d'avenir, c'est de rester le plus longtemps possible au Congo, dans la fonction que j'occupe, parce que je trouve que ce pays est fascinant. Bien sûr, il y a une histoire très particulière entre la Belgique et le Congo, mais j'ai été vraiment ravie de voir l'accueil que j'ai reçu, et c'est un plaisir de travailler avec les Congolais. J'espère pouvoir rester au moins 2 ou 3 ans, ou 4 ans, enfin je ne sais pas. Et alors j'aurais un dernier petit souhait, mais ça c'est un clin d'œil, parce qu'on est en plein mondial de football, et les Diables Rouges se débrouillent. Oui bien, ils viennent de battre les États-Unis et moi je fais le pari que la Belgique va se retrouver en demi-finale. On verra bien dans 15 jours si c'est le cas, mais en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui soutiennent la Belgique aussi et les Diables Rouges, alors en avant, on va gagner. Et puis je vais essayer de terminer sans trop bafouiller en vous disant Botikala Malamu.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question de cette semaine porte sur le chef de guerre Gédéon, question posée au cours de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier. Suivez la question ainsi que la réponse du général Abdallah Wafi.
Patricia Panzo pour Biwan Télévision. Le chef milicien Katangé Gédéon a déclaré être d'accord pour se rendre, mais il demande avant tout d'être sécurisé par la MONUSCO. Est-ce qu'on peut avoir le point de vue de la MONUSCO par rapport à cela?
Gédéon a fui de la prison, il s'est évadé de la prison de Kasapa. Il a été condamné. Gédéon, sa place se trouve en prison. S'il veut aller en prison, nous allons l'accompagner. S'il veut aller à Kasapa, nous allons le retourner en prison. C'est un criminel qui a été jugé, il n'y a pas d'impunité. Et si nous le prenons, si nous le trouvons, c'est pour le ramener en prison.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Retenez ces deux rendez-vous pour la semaine prochaine. Le 9 juillet, c'est la journée mondiale de destruction des armes légères. Et le 11 juillet, la journée mondiale de la population. Le magazine des Nations Unies se mobilise pour couvrir ces activités. C'est ici le point final à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nicole Ngaka était à la supervision. Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et Honoré Missinga au reportage. Lydie Bettina vous l'a présenté. Elle a été mise en onde par Hippolyte Kapanga. Excellente journée dominicale et à dimanche prochain.